Clémence de Rouvray, vous êtes historienne et on peut dire d'une certaine façon que vous êtes entrée en religion, entre guillemets, avec une personnalité roumaine, Vladimir Ghica. Comment vous l'avez rencontré? Pourquoi, après 20 ans d'enseignement, vous vous êtes mis à entrer dans cette recherche sur Vladimir Ghica?
Alors, en fait, voilà, je suis, disons, apprentie historienne, puisque j'ai repris des études, effectivement, pour m'intéresser de plus près à la figure de Vladimir Ghica. Alors, je l'ai découvert, si j'ose dire, par hasard. C'est en lisant « Pensée pour la suite des jours », que je ne connaissais absolument pas. Le nom de l'auteur m'était complètement inconnu. J'ai été séduite, en fait, par l'ouvrage. Et après avoir fermé la dernière page de l'ouvrage, j'ai voulu savoir qui était l'auteur. Alors j'ai cherché un petit peu, j'ai découvert qu'il y avait des biographies qui avaient été écrites assez vite, finalement après la mort de ce personnage qui à l'époque m'était complètement inconnu. Et j'ai commencé par lire la biographie écrite par Jean Daujat, qu'il avait très bien connue, puis celle de Michel de Galzin. C'est à Michel de Galzin, en fait, que je dois ma passion pour Vladimir Ghica.
Pouvez-vous nous dire un aspect, une lumière, quelque chose de lumineux qui a fait que c'est une certitude, je dois connaître ce personnage?
Ce qui s'est passé, c'est que j'ai d'abord été séduite par les différentes activités qu'il avait. C'est-à-dire, je me suis dit, mais quel est ce personnage, en fait, qui a été lié à tous les événements majeurs du XXe siècle et comment s'est-il qu'on n'en ait plus jamais entendu parler? Je me suis dit, c'est peut-être tout simplement parce que moi, je ne connais pas, j'y connais rien, donc c'est normal que je ne le connaisse pas. Mais c'était quand même une figure très oubliée chez nous en France, alors qu'il a tenu une place très important d'un point de vue spirituel, intellectuel. Alors je pense particulièrement au milieu maritain, mais pas uniquement. L'union des églises, qui était pour moi un sujet que je connais très mal encore, mais qui me passionne. Alors je me suis intéressée en amateur, et puis je me suis aperçue qu'il était possible, en fait, à l'école pratique des hautes études où je suis inscrite maintenant, de présenter un dossier, de trouver un professeur qui accepterait de suivre ce travail.
Alors dites-nous, Clémence de Rouvray, l'angle sur lequel vous vous êtes appuyée, vous vous appuyez pour faire votre doctorat.
Ça a été un tout petit peu difficile et ça reste difficile parce que c'est un homme qui a touché à tellement de choses que de trouver une ligne, un fil conducteur, une ligne directrice reste malaisé. Bon, il y a quelques semaines, il y a une idée qui est un peu ressortie, c'est en fait l'homme des frontières ou l'homme sans frontières. Point d'interrogation. Il y aurait trois angles, c'est-à-dire l'homme des frontières géographiques, puisque la famille Ghica est d'origine albanaise, mais régnait sur les principautés de Moldavie particulièrement et de Valachie, mais famille Ghica élevée en France. Donc voilà, Albanie, Roumanie, France pour les frontières géographiques, frontières religieuses puisqu'il est orthodoxe et qu'il devient catholique, et frontières que l'on pourrait appeler ou politiques ou diplomatiques, ça c'est encore à préciser, à affiner, parce que sans être diplomate lui-même, il a servi, il a été agent diplomatique non officiel, par exemple entre le Saint-Siège et la Roumanie, ou bien il a contribué d'une certaine manière à la reprise des relations entre la France et le Saint-Siège.
Voilà. Alors, il y a un aspect aussi qui m'est apparu quand j'ai regardé la figure de Vladimir Ghica. On parle de lui et de sa théologie du besoin. Vous pourriez nous en dire quelques mots? Est-ce que là aussi, il n'y a pas une façon d'aller aux frontières, aux besoins des plus pauvres, des marginaux? Il a été aussi très proche de tous ceux qui étaient loin.
Oui, exactement. Ça, c'est certain. Alors, théologie du besoin, liturgie du prochain. Alors, ce sont effectivement les deux aspects de toute l'attention qu'il porte effectivement aux plus pauvres, quel qu'il soit, que ce soit une pauvreté matérielle ou une pauvreté spirituelle. C'est vrai que là, il y a une espèce de frontière. Ce qui m'intéresserait, moi, de travailler plus en profondeur, c'est éventuellement ce qu'il a pu emprunter à la liturgie de Saint-Jean Chrysostome et à ce qu'on appelle aussi le sacrement du frère. Donc, moi, ça m'intéresserait beaucoup en présentant, si vous voulez, à la fois la théologie du besoin de Vladimir Ghica et cette pratique que représente la liturgie du prochain, de travailler ces deux inspirations. Ce que je voudrais creuser aussi, c'est la spiritualité de Saint-Vincent de Paul. Donc on a les deux là aussi, on a à l'intérieur de cette pratique de charité une frontière commune, c'est limitrophe entre l'Orient avec Saint-Jean Chrysostome et le sacrement du frère et l'Occident, la spiritualité de Saint-Vincent de Paul.
Quand on entend le pape parler des périphéries, parler d'aller vers les plus pauvres, de sortir de soi, et quand on vous entend parler de Vladimir Gika, on ne peut pas s'empêcher de faire des parallèles.
Oui, alors effectivement, c'est sûr, je pense que ce souci d'aller vers le plus pauvre, quelque chose qu'on peut retrouver avec le pape François, ce que je me dis aussi, pour ma part, j'essaye d'inscrire plutôt Vladimir Gika dans son époque. Ça ne veut pas dire du tout qu'il y aurait forcément une contradiction avec ce que dit le pape François, mais j'aimerais d'abord comprendre comment il s'inscrit dans son époque et avec les inspirations dont on a parlé là, dont on vient de parler, que ce soit oriental ou occidental, et puis éventuellement voir ce que on peut faire comme comparaison avec l'époque actuelle.
Mais si cette personne de Vladimir Gika vous a tant impressionné, attiré, j'imagine aussi qu'elle a quelque chose à vous dire et quelque chose à nous dire.
Oui, ça c'est évident. Alors, il y a une chose qui est certaine, c'est que je ne pense pas, enfin très simplement, qu'on passe des heures, des jours et des semaines à travailler sur quelqu'un d'abord qui vous ennuie, c'est pas possible, et sans que ce quelqu'un vous apporte quelque chose. J'avais été extrêmement touchée par Pensée pour la suite des jours, dont je me permets de recommander la lecture, parce que d'abord c'est extrêmement facile, ce sont des pensées synthétiques. Elles me font penser un tout petit peu aux apophthegmes du Père du désert.
Vous pouvez nous en donner une ?
Et Vladimir Gika explique que la joie est égale à la souffrance qu'on éprouve, que l'intensité de la joie que l'on peut éprouver est égale à l'intensité de ce que l'on peut souffrir. Ou bien une autre aussi qui est très belle, c'est penser que les moments heureux que l'on vit ne sont pas toujours heureux pour les autres.
Alors, une dernière question, Clémence de Rouvray. Quand on écrit sur un personnage aussi fascinant, qu'est-ce qu'on souhaite donner aux autres ?
Je sépare peut-être deux domaines qu'il ne faudrait pas séparer, mais le domaine historique et le domaine spirituel. Parce que ma réflexion va peut-être paraître un peu brutale, mais je ne tiens pas, si vous voulez, à faire une hagiographie. C'est-à-dire que je souhaite présenter le personnage tel qu'il est, avec toutes ses grandeurs et éventuellement ses contradictions. Je voudrais essayer, dans la mesure du possible, d'abord de restituer le personnage dans son époque et essayer de comprendre quel rôle il a eu. Donc ça, ce serait la partie, si vous voulez, historique à laquelle je suis très attachée. J'essaye de faire un travail de future historienne.
Oui. Et ce qui est important aussi dans ce que vous dites, c'est finalement trouver comment ce genre de grande personnalité s'est trouvé à la bonne place au moment où il fallait.
Voilà, exactement. C'est exactement ça. Et en même temps, ce n'est pas quelqu'un de premier plan. C'est effectivement une grande personnalité, mais comme je dis peut-être de façon trop simple, ce n'est pas un évêque, ce n'est pas un supérieur d'ordre, ce n'est pas un responsable, je ne sais pas moi, d'une congrégation, enfin de tout ce qu'on voudra. C'est quelqu'un qui est en second plan, mais dont le rôle est quand même important et, je pense, est encore à préciser.
Voilà. Et l'autre plan ?
Alors l'autre plan, c'est le plan spirituel. Et donc là, c'est certain qu'il y a une foi qui est très grande, une charité aussi, mais je pense une vie intérieure, une réflexion intérieure, et je reviens aux pensées, vraiment les pensées pour la suite des jours, parce que ce sont des choses très simples, des phrases très courtes, extrêmement profondes, et l'ouvrage, vous pouvez l'ouvrir à n'importe quelle page, il n'y a pas d'ordre si vous voulez, et je pense un tout petit peu, je ne sais pas si la comparaison est juste, mais un tout petit peu comme les psaumes. Vous prenez votre livre des psaumes, vous pouvez le lire à n'importe quel moment, et un moment à un autre, toujours, ça vous parle. Ça correspond à une situation, à une peine, à une joie, parce que c'est profondément humain. C'est très spirituel, mais c'est profondément lié à toutes les circonstances de la vie.
Merci.
Merci à vous, ma sœur.